Entre nous soit dit, Mélanie Kroubalian.
Bonjour à tous. Il y a des gens dont l'optimisme saute à la figure dès qu'on les voit. Le sourire toujours présent, la bonne humeur communicative, toujours prêt à danser, à faire la fête, à raconter une bonne blague. On les envie parfois pour leur bonheur perpétuel. Mais ces bienheureux ne cachent-ils pas, comme nous tous, une faille ? N'ont-ils pas eu aussi des moments de découragement, des crises d'infinie tristesse, des colères et des rancœurs ? Il suffit parfois de s'attacher au regard, loin des mains qui virevoltent et des dents qui esquissent un sourire joyeux, de plonger dans ce regard noir pour déceler une lueur plus sombre, une mélancolie tenace qui vous fixe, droit dans les yeux, derrière cet air serein et satisfait. L'image de l'éternel bout en train se fendit et n'en devient que plus attachante. C'est ce qui arrive si vous contemplez un instant la photo de couverture du dernier livre de mon invité de ce jour. Bonjour Enrico Macias.
Bonjour Mélanie.
Vous êtes en direct en duplex de Paris. Ce livre s'intitule « L'envers du ciel bleu ». C'est votre autobiographie parue aux éditions du Cherche Midi. Une autobiographie en négatif, si j'ose dire.
Non, en tout cas, je suis très très touché par votre présentation. Et c'est vrai, vous avez résumé exactement le sujet du livre.
Mmh. Qu'est-ce qu'il y a dans votre regard là, Enrico Macias ? Je ne vous vois pas, vous êtes à Paris.
Il y a un regard joyeux de vous parler. Et oui, je suis bien là, je suis de bonne humeur.
Et pourtant, il y a toujours cette nostalgie, c'est vrai. Hein, j'ai regardé cette photo, la couverture du livre, et on voit quelque chose d'un peu triste dans le regard quand même, malgré le sourire, malgré les pas de doigts qui montrent que vous souriez souvent et que vous avez souvent souri dans votre vie, Enrico Macias.
C'est vrai, mais ce que je crois, c'est que ce que j'ai voulu faire, c'est transmettre la vérité non seulement à mes enfants et mes petits-enfants, mais aussi au public qui me suit depuis 53 ans. C'est que mon premier message, c'est de faire la fête, c'est de faire oublier aux gens qui viennent me voir chanter leurs soucis de la vie quotidienne. Mais que derrière tout ça, il y a une face cachée et je voulais leur montrer que cette face cachée, c'était un peu mes douleurs. Je voulais leur faire partager que mes joies, que mon bonheur, mais pas mes douleurs. Mes douleurs, c'est personnel. C'est personnel, mais comme chacun d'entre nous a toujours le revers de la médaille, il y a toujours une dualité entre le noir et le blanc, une dualité entre la nuit et le jour, une dualité entre la bonne humeur ou la colère ou la peine ou la douleur. Vous voyez, c'est toujours comme ça. Mais seulement, on essaye de corriger tout ça par l'optimisme, l'espérance et puis aussi surtout la musique. Voilà.
Vous l'avez fait toute votre vie, toute votre carrière en tout cas, Enrico Macias, et toute votre vie presque, parce qu'on va voir dans cette émission que la musique était présente très très tôt dans votre vie. En fait, ce livre, cette autobiographie est très touchante parce que vous vous livrez vraiment complètement. Vous parlez beaucoup d'exil et ce qu'on ressent finalement de cette tristesse, Enrico Macias, vous me direz si je me trompe, c'est la tristesse de l'exil et la tristesse d'être un étranger partout.
C'est vrai que ça m'a toujours, depuis que j'ai quitté mon pays, ma maison, mon enfance, tonton Raymond, la musique arabo-andalouse, mes parents, ma femme dernièrement, mon pauvre frère, tout ça. C'est vrai que j'ai toujours cette nostalgie à cause de l'exil. Moi, je dis que c'est l'exil qui m'a rendu malheureux. Et je me soigne. Comme je l'ai dit, par l'espérance, par la foi, et j'essaye de transmettre cette espérance à tout le monde. Parce que quand il n'y a plus l'espérance, alors qu'est-ce qui nous reste ?
Et vous construisez un autre pays qui est peut-être celui de la musique, justement, Enrico Macias, et où on peut tous se réfugier de temps en temps. Dans la vôtre, on l'a tous fait. J'ai envie, pour commencer l'émission, de lire un extrait du livre. On en lira d'autres pendant l'émission. On écoutera aussi, bien sûr, de la musique que d'Enrico Macias, évidemment, aujourd'hui, on aurait tort de se priver, il y a de quoi faire. Là, je vais lire un extrait du tout début du livre où vous vous adressez à vos petits-enfants.
Ah oui.
J'aime la France. J'ai chanté, j'ai écrit, j'ai dit mille fois la manière dont elle m'a ouvert les bras. Je n'ai nulle aigreur, mais je n'ai jamais vraiment raconté l'autre partie de cette histoire. Je crois que si je ne le faisais pas, je ne serais pas totalement sincère avec vous et je ne serais pas complètement juste avec mes parents, mes beaux-parents et leurs ancêtres avant eux. Oui, je vous dois cette histoire tout entière et je dois à ceux qui nous ont précédés, votre grand-mère et moi, de la raconter vraiment tout entière. Et c'est vraiment une affaire de ciel bleu. Si on veut résumer ma vie, on pourrait dire que j'ai grandi sous le ciel bleu du climat d'Algérie avant d'être accueillie en France sous le ciel bleu de la liberté. On pourrait dire que j'ai toujours eu de quoi être heureux, après tout, entre le soleil de là-bas et le confort d'ici. Toujours un beau ciel bleu pour me dorer la peau et me caresser l'âme. Voici pourquoi je voudrais vous raconter la vérité de ce ciel bleu. Le pays dont j'ai été privée et le pays où j'ai toujours été, finalement, un étranger. Vous raconter l'envers du ciel bleu. Voilà, ça c'est le début. Effectivement, vous racontez l'envers et vos peines et vos douleurs, peut-être pour la première fois de votre vie, Enrico Macias.
Je l'ai déjà fait un peu dans mes chansons, mais,
oui.
mais dans le livre, je l'ai bien développé. Mm-hmm. Et cette fois-ci, j'ai été au plus profond de moi-même pour extirper de mes tripes toutes ces douleurs, toutes ces peines, mais que je garde en moi, mais que j'essaye d'éradiquer par des gens gentils comme vous, par le cœur du public, par mes passages sur scène, ça me guérit de tout, quoi. Voilà.
Mmh. Bon, j'espère que vous allez me trouver gentil jusqu'à la fin de l'émission, comme Macias,
oui.
On verra.
Non.
Je vais vous poser beaucoup de questions.
Ouais.
On va revenir,
rien,
j'espère, ne pas
rien.
Vous faire pleurer avec des souvenirs. Ça arrive parfois dans cette émission. On va revenir sur de très vieux souvenirs, parfois, avec des archives, comme d'habitude, des archives qui remontent à loin aussi. Et puis, la musique, je l'ai promis, la musique. De vous, Enrico Macias, on va commencer par une chanson qui n'est pas très connue, qui est très belle, qui est une des chansons préférées de Nathalie Schoenberg, qui est notre programmatrice musicale ici. Et elle nous la propose, elle nous propose de la découvrir peut-être aujourd'hui si on ne la connaît pas encore. Cette chanson, c'est La Nuit, que vous avez faite en collaboration avec Marc Estève, extrait d'un album de 2011, Voyage d'une mélodie.
Descends lentement la nuit, regardez-la s'approcher de nous. Elle voudrait bien s'en faire de bruit, nous surprendre entre chien et loup. Descends, descends, ce ne sera pas la première ni la dernière des fois que tu fais rougir la terre. Descends, descends, il fait déjà noir dans les bois et la ville sombre à l'heure d'hiver. Descends lentement la nuit, comme un brouillard, elle éteint les voix. Mais celle qui chante en moi se rit de l'heure des ombres et du grand froid. J'ai soufflé sur tant de bougies pour les rallumer. Elles ont toujours rythmé ma vie, ces flammes, ces danseuses de salon. Descends, descends, ce ne sera pas la première ni la dernière des fois que tu fais rougir la terre. Descends, descends, il fait déjà noir dans les bois et la ville sombre à l'heure d'hiver.
The night falls, and day breaks, bad calls, mistakes, sunset, sunrise, unrest, uprise, sun's out, wish I'd stayed in the park. Keep my eyes open wide, I'm just afraid of the dark. Need the white to have the black, aren't you glad that we waited? Our lives are manuscripts, illuminated.
Descends, descends, ce ne sera pas la première ni la dernière des fois que tu fais rougir la terre. Descends, descends, mais tu pourrais bien cette fois brûler tes ailes à nos lumières. Descends, descends, ce ne sera pas la première ni la dernière des fois que tu fais rougir la terre. Descends, descends, mais tu pourrais bien cette fois brûler tes ailes à nos lumières.
Et oui, jusqu'à la dernière note, on l'écoute, cette chanson. Oh, cette très belle chanson, La Nuit.
Je la redécouvre, hein, parce que vraiment, je trouve que cette chanson est vraiment fabuleuse et que la personne qui l'a choisie a un goût vraiment rare.
Nathalie Schauenberg, c'est son nom, retenez-le, c'est notre programmatrice musicale et elle est précieuse pour nous. Tous les jours, on l'apprécie. Et c'est aussi un autre Enrico Macias qu'on découvre. Alors, je rassure les inconditionnels des classiques, il y en aura aussi dans cette émission. Je laisse encore planer le suspense sur les titres qu'on diffusera. J'aimerais maintenant vous faire écouter une voix qui va vous ramener, je pense, très loin, géographiquement et dans le temps aussi.
Je m'appelle Benki Mouchamed. Je fais du dépannage de radio-télévision dans cette rue qui s'appelle la rue du docteur Lavran. Nous sommes au numéro 24, à Constantine, la ville des ponts. Bien le bonjour à tout le monde.
Vous avez été, en fait, l'ingénieur du son qui a enregistré Raymond Léris, c'est ça?
Oui. C'est-à-dire, j'ai fait des enregistrements à partir de la radio parce qu'il faisait des émissions tous les jeudis.
Oui.
Tous les jeudis, c'est-à-dire un jeudi par mois. Et il faisait des noces, et il faisait des soirées dans des théâtres, mais c'était rare les théâtres, c'était plutôt le cinéma. Il n'a fait qu'une seule soirée dans le théâtre de Constantine. Ça a été pour l'ouverture de la télévision à Constantine le 28 octobre 1960.
Ah oui.
C'était la première fois qu'il y a eu la télévision à Constantine. Cette bande, je l'ai enregistrée le 31 mai 1956 à l'Université populaire de Constantine, exactement à 21h pile.
Vous vous en souvenez très bien?
Je m'en souviens très bien. L'article sur le journal.
Alors écoutons ça.
Enrico Macias, vous êtes avec moi en direct en duplex de Paris. Vous avez entendu comme nous cette archive?
Oui, c'est magnifique parce que la voix de Tonton Raymond est assez exceptionnelle et je suis content de l'avoir fait connaître. Dans le monde entier, on ne connaissait pas. C'était au départ un chanteur de musique classique constantinoise.
Et en 99, à Bourges, vous avez fait un hommage à Raymond Léris.
Oui, j'ai repris un peu une partie du répertoire de Tonton Raymond. Et en tant que chanteur, c'était pour moi un défi terrible parce qu'au départ, j'ai joué dans son orchestre, mais seulement de la musique. Mmh. Et là, j'ai chanté carrément. Oui, en arabe, complètement.
C'est pas pareil que de chanter en français, évidemment. Il faut apprendre les paroles. Vous la racontez un peu dans l'envers du ciel.
Oui, et puis il faut comprendre ce qu'on dit parce que sinon, on n'a pas une interprétation. Belle interprétation, juste. Quoi. Mm-hmm. Ouais.
Mm-hmm. Alors là, on entendait Benki Mouchamed, que vous connaissez aussi certainement, qui enregistrait les concerts.
Oui,
il parlait d'un concert à l'Université populaire de Constantine en 1956.
C'est la première fois. Oui. C'est la première fois que je me produisais avec l'orchestre. Et c'est la première fois que j'ai eu un contact avec un public dans une salle. Et avant de jouer, quand c'était mon tour de faire une improvisation sur un thème bien précis, Tonton Raymond me fait signe de jouer. J'étais tellement tétanisé que j'ai pas pu commencer tout de suite. Il m'a fait signe avec un sourire que j'oublierai jamais. Et là, ça m'a donné du courage et j'ai attaqué. Et quand j'ai terminé mon solo, les gens ont applaudi. C'est la première fois de ma vie que j'ai été applaudi, que j'ai senti le plaisir, la satisfaction des applaudissements. Quoi.
Vous aviez 15 ans, Enrico Macias, à l'époque.
Comment ?
Vous aviez 15 ans.
J'avais 15 ans, exactement, oui.
Première fois.
Ouais.
Et vous étiez avec votre père, car votre père jouait aussi dans cet orchestre de Tonton.
Oui, mon père était son bras droit, son violoniste. C'est mon père qui donnait l'impulsion à l'orchestre, parce qu'il avait une force extraordinaire, une sensibilité rare. Et Tonton Raymond comptait beaucoup sur mon père pour l'accompagner. Et Tonton Raymond était aussi multi-instrumentiste. Et c'est un des plus grands chanteurs qu'on ait eu à Constantine.
Mmh. C'est en quelque sorte votre maître, c'est ce qu'on comprend dans L'envers du ciel bleu, Enrico Macias, quand on lit le livre. Alors c'est difficile peut-être la question que je vais vous poser, mais qu'est-ce qu'il vous a appris, Tonton Raymond, qui vous sert aujourd'hui dans votre carrière de chanteur ?
Tonton Raymond, il m'a appris l'humilité. Tonton Raymond m'a appris la rigueur. Il m'a appris aussi... de ne pas trop me gargariser avec le succès, parce que le succès, ça peut être aussi une sorte de poison, quoi. Parce que c'est dangereux. Le succès, c'est dangereux. Et il m'a appris à bien à être sincère avec ce qu'on fait, avoir la foi, y croire.
Vous vous souvenez de votre première guitare, Enrico Macias ?
Oui, c'est ma grand-mère qui me l'a offerte.
Racontez-nous ça.
Vous savez, ma grand-mère ne me refusait rien. Un jour, elle me donnait toujours de l'argent pour louer des vélos, parce que j'adorais le vélo. Et un jour, j'ai eu un accident avec le vélo, et mes parents m'ont interdit de faire du vélo. Et en cachette, ma grand-mère me redonnait de l'argent pour aller louer un vélo. Voilà. Et elle ne savait pas quoi faire pour me faire plaisir. Et comme elle savait que j'étais assez prédestiné pour faire de la musique, parce que moi je prenais tout le temps n'importe quoi pour faire un instrument. Je prenais une planche de bois chez le menuisier d'à côté de chez moi. Et puis je mettais des élastiques et puis je jouais comme
ça
je pouvais.
Ça déjà tout petit alors ?
Oui, tout petit. Mmh. Et ma grand-mère, quand elle allait tous les ans en pèlerinage à Testour, en Tunisie, pour pèleriner un grand saint de chez nous, un grand rabbin, et elle me ramenait toujours un cadeau. Et bon, c'était gentil, tout ça, mais cette fois-ci, le plus beau cadeau qu'elle m'ait fait, c'était ma première guitare. Et je l'ai reçue, je me rappelle, elle était enveloppée dans du carton. Elle n'avait pas de housse. Alors je l'ai sorti vite du carton, je l'ai accordé comme j'ai pu, parce que je jouais de la mandoline avant la guitare. Donc j'ai pas très bien accordé la guitare, je l'ai accordé à ma façon.
Oui.
Et j'ai pu jouer de la guitare. En montant les escaliers, je jouais déjà de la guitare. Et je vous assure, après j'étais voir mon père, il dormait parce que il avait fait une soirée, il était rentré très très tard, tôt le matin, et il dormait, il se reposait, et puis je l'ai réveillé, je lui ai dit « Papa, écoute, regarde ». Il m'a entendu jouer, et il m'a dit « Allez, donne-moi cette guitare, parce que là je sens que tu as plus travaillé à l'école », et tu sais, il l'a enfermé. Il l'a enfermé dans l'armoire. Oh là là, c'était une grande catastrophe. D'une joie, c'est devenu l'enfer.
Oui. Confiscation voilà. De la guitare. Il vous l'a rendu quand même après.
Ouais, mais c'est-à-dire que ce que j'ai fait après, c'est louer une guitare, alors que j'en avais une qui était cachée dans l'armoire.
Confisquée par votre père,
oui. Ouais. Mais finalement, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir le virus de la guitare et de la musique.
Mmh. Et là, c'était la musique arabo-andalouse. Il faut peut-être, Enrico Macias, qu'on dise deux mots sur cette musique. On en apprend beaucoup en lisant L'envers du ciel bleu sur la musique arabo-andalouse qu'on connaît pas très bien ici, finalement.
C'est vrai, mais vous savez, quand j'ai fait des concerts de musique arabo-andalouse après le printemps de Bourges, j'ai chanté pendant 3 ans que de la musique arabo-andalouse. J'ai chanté à Genève.
Oui.
J'ai joué à Genève cette musique, j'ai joué à Bruxelles, j'ai joué. Je pensais pas qu'il y avait des gens qui n'étaient pas initiés au départ, qui étaient curieux de cette musique. Et vraiment, ça a marché très très bien.
Mmh. C'est une musique qui, grâce à vous d'ailleurs, est un peu plus connue aujourd'hui en Europe. Alors, à part la guitare, vous êtes quand même allé à l'école grâce à votre père qui a enfermé la guitare à un moment donné.
Ouais, ouais.
Vous vouliez devenir surveillant à l'école, vous êtes devenu instituteur finalement.
Oui, c'est-à-dire que. Grâce à mes parents, j'ai pu avoir des diplômes pour pouvoir, pour leur faire plaisir d'abord. Parce que moi, ce qui comptait le plus, c'est de faire de la musique.
Ouais.
Et j'ai demandé un poste de surveillant, c'est-à-dire de pion, comme on appelait vulgairement, mmh. un surveillant, au collège de Constantine. Et puis, c'était pour apprendre la musique, pour aller au conservatoire, tout, pour en même temps apprendre la musique, tout en surveillant les élèves.
Mmh.
Comme il manquait, c'était le début de la guerre, même presque la fin, on est venu me chercher, parce qu'il manquait des cadres dans l'enseignement. Alors, je suis devenu instituteur, voilà.
Qu'est-ce que ça vous a appris, ce métier d'instituteur pour la musique, après ?
J'ai adoré les enfants. La proximité avec les enfants, ça m'a énormément plu. Et c'était vraiment extraordinaire, l'univers des enfants. Mmh. C'est un univers qui nous apprend beaucoup. Autant que l'univers des animaux. Je m'excuse de le comparer à des
même si c'est pas tout à fait la même chose, mais effectivement.
Non, c'est pas pareil, mais quand même, c'est vrai. C'est que j'ai le respect des animaux, j'ai le respect de toute la création. Je suis un écologiste musicien, voilà.
Mmh. Tiens, un nouveau nom pour Enrico Macias, l'écologiste musicien. On va garder ça. Après, je le disais tout à l'heure au début de l'émission, il y a des événements tout à fait tragiques dans votre vie, dont l'assassinat de tonton Raymond, dont on parlait tout à l'heure. Il se fait assassiner en 1961, je crois que c'était le 22 juin, à Constantine.
Exactement, exactement.
Et à partir de tout va mal en Algérie.
Oui, à partir de là, tonton Raymond était le représentant de la musique arabo-andalouse. Il était aussi une des figures les plus importantes de la communauté juive de Constantine. Et puis quand il se fait assassiner, toute la communauté juive est partie. On n'avait plus confiance pour rester là-bas.
Mmh.
Et moi, je suis devenu orphelin de l'Algérie, de tonton Raymond, de la musique arabo-andalouse. Et je suis arrivé en France comme ça, complètement désemparé.
Mmh.
Voilà.
À bord du Ville d'Alger, le paquebot qui vous emmène à Marseille, en 1961 justement, vous composez une chanson qui est une de vos premières chansons, Enrico Macias.
Oui, je fais juste une petite rectification. C'était pas le Ville d'Alger, c'était le Sidi Ogba.
Alors
je ne sais pas si c'est marqué dans le livre comme ça. Alors là, c'est une faute.
Non, non, c'est pas marqué dans le livre. Dans le livre, c'est pas. Je ne crois pas que le nom du bateau est marqué, mais c'était dans un autre article qui apparemment était faux.
Voilà. C'est pas grave.
Il rectifie. Le Sidi
Ogba.
C'était
un bateau quand même.
Mmh.
C'était un bateau quand même, et c'est sur ce bateau-là que j'ai improvisé. La chanson « Adieu mon pays », quand je voyais les visages et la peine qui se dégageait des regards des gens. Vous savez, chez nous, quand on a de la peine ou quand on a de la joie, on chante. Alors j'ai pris ma guitare et puis j'ai chanté, j'ai improvisé la chanson. Tout le monde pleurait, tout le monde pleurait. Moi aussi, d'ailleurs, j'avais du mal à chanter. Et quand j'ai terminé, on m'a redemandé de la rechanter une autre fois. Alors là, je m'en rappelais plus, parce qu'elle était complètement improvisée.
Mm-hmm.
Et on a fait une sorte de comment on appelle ça
Un brainstorming comme ça avec tout le monde?
Non. On a fait comme un puzzle. Ah. Vous voyez ce que je veux dire?
Chacun
moi, je
a
me rappelais
un
du
bon.
Début. Je me rappelais du début. J'ai quitté mon pays. Alors, il y en a un qui me dit j'ai quitté ma maison. Hop, qui se rappelait phrase par phrase, mot par mot. Et j'ai reconstitué la chanson exactement comme je l'avais improvisée.
Et figurez-vous qu'on l'a ici, donc on va l'écouter maintenant. Sortez votre mouchoir, sortez tous vos mouchoirs. Je sors le mien. Adieu mon pays.
J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue, leurs souvenirs se réveillent. Bien après mon adieu, soleil, soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais, des filles que j'ai jadis connues. J'ai quitté une amie, je vois encore ses yeux. Ses yeux mouillés de pluie, de la pluie, de l'adieu. Je revois son sourire, si près de mon visage. Il faisait resplendir les soirs de mon village. Mais du bord du bateau qui m'éloignait du quai, une chaîne dans l'eau a claqué comme un fouet. J'ai longtemps regardé ses yeux bleus qui fuyaient. La mer les a noyés dans le flot du regret.
Et voilà. Adieu mon pays. Ça c'était votre chanson avec une voix toute différente. Alors, on a quelqu'un qui s'est installé ici, dans ce studio, pendant la chanson. Jean-Marc Richard, bonjour.
Bonjour Enrico Macias.
Et vous me disiez...
Bonjour.
Voilà. Vous me disiez, Jean-Marc Richard, que ça tombait très bien, ce passage de vous dans cette émission, avec le départ d'Enrico Macias d'Algérie, puisqu'on parle de jeunes en rupture avec la chaîne du bonheur.
Oui, c'est une journée particulière pour les jeunes en rupture ici en Suisse, mais aussi dans le monde. J'étais très touché par ce que disait Enrico Macias. D'abord, parce que dans de nombreux pays, je pense au Salvador, que je connais assez bien, dans de nombreux pays, il y a des jeunes qui sortent de leur galère, qui sortent des gangs, des ghettos, grâce à la musique. C'est-à-dire que grâce à des projets mis en place de réinsertion professionnelle et de réinsertion par la musique, ils s'en sortent. Et ils ont un avenir, alors qu'ils n'en auraient pas eu s'il n'y avait pas eu la musique. Et puis, je pense évidemment à tous les migrants en ce moment. Et chez nous, donc en Suisse, une partie de l'argent que nous récoltons aujourd'hui donnera la possibilité à des jeunes migrants qui ne connaissent ni la langue française, qui ne connaissent pas les coutumes, de se remettre à l'école, de repartir vers une formation et des études. Puis je pensais à tous ces jeunes qu'on rencontre depuis quelques jours pour cette journée particulière, qui disent comment dans la vie, c'est pas seulement important de retrouver du travail, mais qu'on est vite déplacé par rapport à soi-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on va d'échec en échec, la rupture, c'est pas seulement la rupture professionnelle, c'est aussi une rupture par rapport à l'estime de soi, par rapport à la confiance. Et je pense que ce sont des choses qu'Enrico Macias entend, chante et dit depuis des années. Et donc voilà, ça tombait bien aujourd'hui. Donc je voudrais juste finir par le numéro de téléphone pour pas prendre trop de temps, parce que cet entretien me passionne. Donc je voudrais pas prendre trop de temps. C'est le 0800 87 07 07. Puis je vais le dire avec le 0800 87, comme on dit chez nous, 07 07 pour venir en aide aux jeunes en rupture ici en Suisse et dans le monde. Merci beaucoup.
Il y a aussi
beaucoup.
Un compte postal.
Oui, il y a le 10-15000-6 compte postal. Et puis si vous voulez d'autres détails sur les projets qui sont soutenus, c'est www.bonheur.ch. Bonheur avec CH, moi j'aime ça.
Chaque centime compte, c'est le thème, c'est la journée, chaque centime compte, consacrée aux jeunes en rupture. Merci beaucoup Jean-Marc Richard d'avoir été
merci.
Là. Filez, enfin restez
oui,
avec nous.
Un bout
écoutez,
bah
oui, restez avec nous. Enrico Macias, ça c'était l'interlude de chaque centime compte. Dites-moi.
C'est formidable que juste après Adieu mon pays, on ait parlé des jeunes en rupture et puis qu'on ait parlé aussi des migrants. Moi, ça m'a bouleversé ce que vous venez de dire. Ça m'a vraiment bouleversé. Et ça me remplit d'espoir, d'espérance pour ces jeunes et pour ces migrants et pour tous les gens qui sont déplacés, qui ne peuvent pas, si vous voulez mieux, qui sont coupés de leurs racines. Vous savez, quand vous coupez quelqu'un de ses racines, vous lui enlevez, c'est une première mort. Mais quand des racines repoussent, eh ben, ça, c'est le paradis.
C'est ce que vous avez fait, Enrico Macias. Vous me le disiez au début de cette émission avec la musique. Alors, on va justement aborder le volet parisien de votre parcours. On vous avait laissé sur le bateau, qui n'était pas le ville d'Alger, d'ailleurs. Comment il s'appelait déjà, le bateau ?
Sidi Ogba.
Sidi Ogba, qui vous emmenait à Marseille. Et vous avez composé la chanson qu'on vient d'entendre. Multi-composé d'ailleurs, avec les passagers du bateau qui vous ont un peu aidé à retrouver les paroles.
Oui.
Je vais vous faire écouter une autre voix cette fois. D'habitude, il chante, mais là, il parle.
Il y a quelques années, Bruno Cocatrix disait en parlant de vous, il fume comme un sapeur, il boit comme un trou, on se demande comment il peut chanter encore.
Il s'arrêtait là ?
Oui.
Ça va ? Non, je chante de mieux en mieux d'ailleurs, je dois dire. Enfin, sans me faire de compliments, je veux dire, je suis de plus en plus... Comment dire, je cherche le terme précis dans la puissance. Et quelquefois, les boxeurs, les jeunes boxeurs, par exemple, tapent un peu à tort et à travers. Eh bien, quand le boxeur est un peu plus âgé ou prend un peu plus d'expérience, il tape plutôt à coup sûr. C'est un peu mon cas, si vous voulez.
Il n'y a pas de mystère, Beko, de secret, Beko ?
Oh, sûrement, oui.
Mais c'est un secret.
Bon, vous savez, de toute façon, il ne doit pas être bien grand, ce secret-là. Je pense que le secret, c'est l'envie, c'est le plaisir de faire ce qu'on fait. C'est le public, en fait, qui vous donne ça, cette puissance, cette envie de le convaincre constamment. Et le fait, quand vous le voyez en face de vous, il est là et semble vous dire « Alors ?» Alors raconte-nous, alors dis-moi. Fais-moi rire, fais-moi pleurer, mais par pitié ne me laisse pas indifférent.
La définition du chanteur par Gilbert Beko, qui était au micro de Jacques Beaufort en 1977, Enrico Macias. Est-ce que vous savez pourquoi je vous fais écouter Gilbert Beko ?
J'étais très lié avec Gilbert Beko parce que j'assistais à tous ses spectacles. Et je sais pas.
Il y a eu une première partie à Saint-Raphaël.
Ah, non, mais bien sûr, vous m'avez mis sur la voie. C'était mon premier spectacle. C'est la première fois que je chantais en France, et c'était au casino de Saint-Raphaël. Et la vedette, c'était Gilbert Beko. Et le présentateur celui qui organisait le spectacle, m'a mis carrément en numéro un. C'est-à-dire, je démarrais la soirée, c'est-à-dire j'essuyais le torchon, quoi. Et c'était dur,
facile,
c'était...
Ouais.
C'était. Alors je suis passé complètement dans l'indifférence la plus complète. Et j'étais en larmes en sortant de scène. J'étais tout seul dans ma loge. Enfin, une loge commune. Mmh. Et j'étais assis comme ça. Puis Lynn Monti, qui passait en vedette américaine, a eu de la peine pour moi en me voyant comme ça. Et elle est passée sur scène. Elle était un peu nettement plus connue que moi. Et au milieu de son tour de chant, elle dit vous n'avez pas compris le chanteur Enrico Macias. Vous étiez en train de vous occuper à vous asseoir. Et puis, comme il passait en numéro un, vous avez été complètement indifférent. Et il souffre énormément. Alors moi, je vais vous proposer de le revoir et je vais le faire venir sur scène. Et je suis revenu, j'ai chanté en duo avec elle, et on a fait un malheur. Et le lendemain, Louis Nucera, qui était un journaliste et qui est devenu après le célèbre Louis Nucera, que vous connaissez, et a écrit « Une étoile est née ». Voilà.
Dès le premier spectacle en France.
Oui, le premier spectacle qui avait démarré sur une catastrophe. Mmh.
Parce que vous étiez aussi très différent, Enrico Macias. Vous faisiez quelque chose dont on n'avait pas du tout l'habitude en France.
Ça aussi, oui, bien sûr. C'était à la fois un avantage et puis aussi un grand inconvénient, bien sûr.
Mmh. Il fallait que les gens s'habituent à ce chanteur étrange, Enrico Macias, qui s'appelait d'abord Gaston Renacia, en plus qui avait un nom pas possible.
Vous avez changé d'ailleurs, à Saint-Raphaël, je m'appelais Gaston Renacia. Alors, vous vous rendez compte ?
Impossible.
Qui c'est ce Gaston-là qui vient chanter des chansons méditerranéennes
on va raconter tout à l'heure comment
dans
vous avez...
le Nord.
Oui, on va raconter comment vous avez changé de nom après, mais j'aimerais aussi encore rester un moment sur Gilbert Bécaud et son pianiste Raymond Bernard, son compositeur aussi. Et c'est lui finalement qui vous a repéré, qui vous a dit viens chez Pathé.
Oui, il a été vraiment exceptionnel avec moi. Et quand il est venu me voir à la fin de mes deux tours de chant. Il est venu me voir, il m'a donné son numéro de téléphone, il m'a dit « quand tu viendras à Paris, viens me voir ». Je suis allé le voir à Paris et il a tenu parole, il m'a présenté à Gérard Cotte, qui est devenu mon premier directeur artistique chez Pathé Marconi, et c'est comme ça que j'ai enregistré mon premier disque.
C'est comme ça que tout a commencé, ou presque, parce qu'il y a eu quand même aussi une première télévision, c'était 5 colonnes à la 1.
C'est vrai, mais je voudrais quand même vous continuer à vous parler de Raymond Bernard.
Dites-moi.
Raymond Bernard, pour le remercier, et comme il avait du talent, j'ai écrit beaucoup de musique de films avec lui, et il faisait ça pour que je gagne ma vie. Et en plus... Il a réussi à m'imposer dans ma maison de disques. Et quand il est décédé, je ne le savais pas. J'ai lu le Figaro et j'ai vu Raymond Cohen. C'est son vrai nom. Et j'ai dit, c'est pas possible, c'est pas Raymond Bernard.
C'est un autre.
Ça doit être un autre. J'ai téléphoné au numéro qu'il y avait dans le Figaro. Et effectivement, sa femme m'a pris au téléphone. Elle m'a dit, oui, c'est Raymond Bernard qui est décédé. Je lui ai dit, mais l'enterrement a eu déjà lieu. Ils me disent non. Et moi, il était midi quand j'ai appelé. L'enterrement avait lieu à 15h. Et j'étais à son enterrement. On n'était pas nombreux. On n'était pas nombreux. Il y avait Charlet Marouani, qui était un impresario de Gilbert Bécaud. Il était là. Il y avait Jean Peignet. Et moi, on était peut-être 3 ou 4 personnes. Et c'est moi qui l'ai mis en terre. Et je suis content de vous raconter cette histoire parce que c'est pas une histoire, c'est un hommage que j'ai voulu lui rendre.
Et il a compté pour vous, Enrico Macias. Alors après, vous entrez chez Pathé et vous changez effectivement de nom. Vous racontez cette anecdote dans L'Envers du ciel bleu. C'est assez drôle, cette manière de changer de nom. C'est un hasard absolu que vous appeliez Enrico Macias, finalement.
Alors, ma première pochette de disque, c'était Gaston Grenacia. Alors, évidemment, le directeur artistique et tout le monde voulaient parler de moi. Et il n'arrivait jamais à se rappeler de mon nom. Je dis, si nous on ne se rappelle pas de son nom, est-ce que le public va adhérer ? ça va être compliqué. Comme il chante des chansons qui n'ont rien à voir avec Gaston et, et ce nom-là, il me téléphone, il me dit « Tu peux pas trouver un nom un peu plus hispanisant bon, alors, j'ai dit « C'est facile ». Pour le nom, on enlève le greux et ça va devenir Nacia. Et pour le prénom, c'était quand j'étais jeune, j'avais 16 ans à peu près, je n'avais pas le droit de jouer dans des endroits où on buvait de l'alcool. Et j'étais mineur. Mais il y avait un groupe de gitans dont le chef, enfin, c'était tous des frères. Les frères, ils s'appelaient tous Enrico. Et il y avait le grand Enrico, c'était le grand frère. Ils étaient là et moi, je voulais absolument jouer avec eux. Je voulais jouer avec eux et rentrer dans ce bar où ils jouaient. J'allais les écouter, mais je voulais vraiment jouer avec eux. Et il y a eu une pause. Pendant la pause, ils sont sortis. Et j'ai alpagué, comment il s'appelle, le grand Enrico. Je lui ai demandé, j'ai pris ma guitare et je lui ai joué. J'ai chanté devant lui et tout ça. Je lui ai dit, tu veux pas me prendre dans ton groupe? Ah, il m'a dit... écoute, c'est pas mal ce que tu fais. Allez, viens. Allez, tu rentres avec moi. On va t'appeler le petit Enrico maintenant. Voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé le prénom. Enrico Nacia. Et la standardiste a compris Enrico Macias et c'est devenu Enrico Macias.
Tout ça à cause d'un téléphone avec une ligne pas très bonne. Voilà. Sinon, ce serait Enrico Nacia depuis plus de 40 ans maintenant. Enrico Macias, vous nous faites le plaisir d'être avec nous jusqu'à 15 heures. Il nous reste à peu près 15 minutes. J'aimerais qu'on consacre un petit moment de cette émission avec grand plaisir à écouter encore une de vos chansons. Alors celle-ci, c'est un grand classique qu'on connaît tous. Probablement par cœur, qu'on a peut-être un jour chanté quand on était petit ou plus grand. Une chanson pleine d'espoir, vous parliez d'espoir au début de l'émission, qu'on va peut-être dédier justement à ces jeunes en rupture de la chaîne du bonheur de cette journée. Jeder Rappenzelt, chaque centime compte, enfant de tout pays.
Enfant de tout pays, tendez vos mains. Meurtrice, mais l'amour, et puis donner la vie. Enfant de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur notre bonheur. C'est dans vos mains que demain notre terre sera confiée pour sortir de la nuit. Et notre espoir de revoir la lumière est dans vos yeux qui s'éveillent à la vie. Séchez vos larmes, jetez vos armes, faites du monde un paradis.
Enfants de tout pays, tendez vos mains, meurtrissez l'amour et lui donnez la vie. Enfants de tout pays et de tout peuple, vous avez dans le cœur votre bonheur.
Il faut penser au passé de nos pères et aux promesses qui n'ont jamais tenu. La vérité, c'est d'aimer sans frontières et de donner chaque jour un peu plus. Car la sagesse et la richesse n'ont qu'une adresse, le paradis.
Enfant de tout.
Viendra roi, vous pourrez vous reposer. Lorsque la joie couvrira nos prières, vous aurez droit à votre éternité. Et tous les rires de votre empire feront du monde un paradis. Enfants de tout pays, tendez vos mains, meurtrice, mais l'amour, et puis donnez la vie. Enfants de tout pays et de toutes couleurs, vous avez dans le cœur notre bonheur.
Vous avez peut-être tous chanté en chœur, comme moi, « Enfant de tout pays ». C'est une chanson qui date déjà de 1963, j'ai vérifié pendant la chanson, Enrico Macias.
Oui.
Et qui fait toujours sens aujourd'hui, le texte.
Elle est toujours d'actualité, avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qui vient de se passer, par exemple, dernièrement, à Paris. Quand j'entends cette chanson-là, je me dis, mon rêve n'est pas encore réalisé. Quand j'ai écrit cette chanson, je pensais que, bon...
En 2015,
un jour ou l'autre... Oui, mais alors là, jamais j'aurais cru que cette chanson, depuis 1963 que je l'ai écrite, que maintenant, nous sommes en 2015, presque en 2016, elle est encore... je ne pensais pas qu'elle deviendrait encore d'actualité.
Peut-être encore plus même, Enrico Macias. Alors, on a entendu tout à l'heure la voix de Gilbert Bécaud. Maintenant, j'aimerais vous faire entendre la voix d'une amie. Elle aussi, elle chante d'habitude, figurez-vous. Vous avez eu beaucoup d'amis chanteurs.
Personne n'a fabriqué Annie Cordy, je veux dire par là. De Léonie, elle est passée à Nini, elle est passée à Annie Cordy. Elle s'est décantée. C'est ce que je veux dire. Elle était tout à trac, c'était un boulet de canon qui arrivait. S'en fichait, c'était pas, c'était comme elle était dans la vie, en fait. Et après, on acquiert un métier. Ça, c'est très différent. Car quand moi, les gens me disent « Oui, mais toi, tu es du métier », je bondis. Bien sûr, j'ai du métier, mais avant tout, j'ai eu un tempérament. Parce qu'on peut avoir un métier, on peut apprendre un métier, mais c'est pas pour ça qu'on a un tempérament. Ça n'existe pas. T'as des gens qui travaillent beaucoup, parce qu'ils ont besoin de travailler beaucoup. Moi, dans ce que je fais, j'ai pas besoin de travailler beaucoup, parce que je suis une nature. Et je suis une nature. Oui, c'est peut-être une étiquette commerciale, mais on ne peut pas la changer, puisque c'est la vérité. Oui, parce que ça fait depuis 20 ans qu'on voit Annie Cordy dans une facette de ce qu'elle fait. On supporte que dans un tour de chant, Annie Cordy soit d'un coup tendre pendant 3 minutes, pendant 6 minutes, 9 minutes. Mais après, c'est trop.
C'est bien sûr Annie Cordy. En 1977, au micro de Madeleine Constant, elle faisait son autoportrait. J'aimerais vous entendre réagir, Enrico Macias, sur ce que disait votre amie, là, surtout à la fin. Ça nous ramène au début de cette émission, on disait un tempérament joyeux, ben, on veut quelque chose de joyeux, on n'accepte pas les failles derrière.
Mais Annie Cordy, elle disait que c'était une nature. Et c'est vrai, elle représente la tendresse, le grand talent, la gentillesse, la joie de vivre, surtout dans ses spectacles. Et moi, j'ai une tendresse particulière pour Annie Cordy. Je l'aime. Je l'aime.
Comment vous l'avez rencontrée ?
Je l'ai rencontrée quand on était en tournée, la première tournée que j'ai faite en province avec un producteur marseillais qu'il avait engagé, pardon, pas dans le même spectacle que moi, mais on se croisait, elle faisait ses spectacles de son côté, moi de mon côté, mais on se réunissait le soir, après notre spectacle, on mangeait ensemble, dans les restaurants et tout ça, en province. Avant, il n'y avait pas les autoroutes comme maintenant. Et il y avait plein d'auberges, plein de restaurants où on faisait des bœufs ensemble, on se régalait. Voilà, c'est comme ça que je l'ai connue. Et depuis, je suis resté très ami avec elle et avec son mari, malheureusement, qui nous a quittés, qui s'appelait Bruno, avec qui on jouait aux boules, on jouait à la pétanque. Et voilà, pour l'amitié que j'avais pour Bruno, son mari, elle a continué à devenir deux fois amie avec moi. Voilà. Pour Bruno et pour elle.
Et pour Suzy aussi, votre épouse, qui était d'ailleurs la fille de tonton Raymond, qui nous a quittés aussi, hélas, en 2008.
Oui. J'ai beaucoup de peine encore jusqu'à présent. Mais je suis... J'ai quelque chose à vous dire au sujet de Suzy, c'est que elle a tellement souffert pendant 50 ans des médecins, des infirmières, des piqûres tous les jours, des analyses, des opérations, 4 opérations à cœur ouvert, c'est difficile. Mais je me dis que maintenant, là où elle est, elle est mieux que dans ce monde. Et elle est là et elle me protège.
Il est content de vous voir comme vous êtes, Enrico Macias. J'ai envie de lire un extrait de L'envers du ciel bleu, encore un autre, qui m'a beaucoup frappé, je dois le dire, Enrico Macias, écoutez. Toujours j'aurais eu peur de ne plus faire ce métier. Je le dis en 2015, je ne me suis jamais sentie installée. Même si j'ai un public, des contrats à long terme, des projets sur plusieurs années, et même des habitudes. Contre toute logique parfois, j'ai peur d'être lâchée par le public. Et je sais que si cela devait arriver, je ne m'accrocherai pas lourdement. Chaque matin, quand j'ouvre les yeux, je suis heureux de savoir que dans la journée, j'ai un concert, une séance en studio, un rendez-vous avec un journaliste, une télé, une réunion pour préparer la prochaine tournée. J'ai toujours peur du lendemain, même si je me dis que j'ai déjà tant reçu. C'est pourquoi, quand je suis en vacances, j'ai hâte de rentrer et de recommencer à travailler. C'est pourquoi je pense souvent que je ne pourrai jamais m'arrêter, jamais prendre ma retraite. Il faudrait que je sois poussée dehors par le public. Je ne pourrais pas arrêter de moi-même. Chaque fois que j'y pense, quelque chose me ramène à l'envie de faire ce métier. Tout récemment, début 2015, je remonte à pied la rue de Caumartin et remarque dans une vitrine une maquette de l'Olympia. Je m'arrête et sur le trottoir, je suis comme un gosse. Je regarde cette reproduction réduite de la plus belle salle de concert de Paris et je vibre. J'ai envie d'y être. Depuis 1964, je ne sais plus combien de fois j'ai chanté à l'Olympia. Et encore en janvier 2015, quelques semaines avant de découvrir cette maquette. Je devrais être repu d'Olympia, mais j'ai encore envie d'y être, envie du son particulier des applaudissements qui tombent du balcon et montent du parterre en même temps. Je suis un professionnel du spectacle qui en a marre des voyages et des déplacements. Mais quand l'après-midi, dans un théâtre vide, je foule la scène pour faire la balance, je suis heureux et cela détermine ma vie. Vous avez peur, Enrico Macias, encore aujourd'hui en 2015? Ça vient d'où ça?
Ça vient que je ne m'endors pas sur mes lauriers et que je me dis, tout, malheureusement, tout peut être possible. Mais la peur disparaît quand je remonte sur scène. Mmh. Je n'ai plus peur quand je suis sur scène, c'est fini.
Mais si on revient au début de l'émission, Enrico Macias, et pour faire un peu de psychanalyse, peut-être bon marché, tout s'est arrêté à un moment donné en Algérie. Vous avez dû tout quitter, prendre ce bateau, arriver à Paris, reconstruire une nouvelle vie. Ça vient de là, peut-être, cette peur?
Oui, c'est vrai, parce qu'on ne pensait pas qu'un jour, on allait quitter l'Algérie de cette façon. On ne pensait pas. C'était vraiment surprenant, quoi, pour nous tous. Tous les pieds noirs, tous les harkis qui ont quitté obligatoirement de force l'Algérie, ne pouvaient pas faire autrement. Voilà.
Et qui ne peuvent plus y revenir aujourd'hui sans demander un visa, c'est votre cas.
Quelques-uns, voilà, dont moi.
Et oui.
Il y en a qui sont retournés, qui ont pu retourner, moi pas encore, voilà.
Pas encore.
Je dis pas encore.
C'est plein d'espoir.
Parce que c'est plein d'espoir. On ne sait jamais. Oui. On ne sait jamais.
On attend et on attend votre concert peut-être un jour en Algérie. Ce serait magnifique.
Oh là là, ça serait vraiment. La boucle serait fermée, je crois, et que ça serait le plus beau cadeau de ma vie.
Alors, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, Enrico Macias. Alors, merci. L'envers du ciel bleu, c'est le titre de l'autobiographie que vous venez de publier aux éditions du Cherche Midi. Un nouvel album qui se prépare pour 2016,
oui,
Les Clés.
Oui.
Et puis, on parlait de l'Olympia à l'instant, mais vous y serez le 16 et le 17 janvier, sauf erreur.
Exactement.
Il y aura une tournée.
Il n'y a pas d'erreur.
Vous venez en Suisse?
J'ai envie, oui. Mm-hmm. Oui, j'adore.
On vous attend. Et peut-être que vous chanterez cette dernière chanson qu'on va écouter, qui est une de mes préférées, je dois l'avouer. Avec Nathalie Schoenberg aussi, elle a choisi celle-là avec moi, c'est Les Oranges Amères.
Ah oui, oui.
Merci très beaucoup, bien. Enrico Macias.
Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Au revoir.
Merci. Au revoir.
Il est 15h, Paris s'endort. Et par les rues, les champs déserts, toute la ville perd le nord dans une sieste à ciel ouvert. Avec le cœur qui tambourine, je revois derrière mes paupières le chemin blond vers les collines et l'odeur des oranges amères
et l'odeur des oranges amères. Et l'odeur des oranges amères. Et l'odeur des oranges amères. Je retrouve le rouge de ma flamme. Et sous le voile d'une moustique, le visage en sueur d'une femme, ma femme d'aujourd'hui et d'hier. La glu les noyaux d'abricot, le bruit du thé dans les théières, la danse de nuit des lampadaires, et l'odeur des oranges amères, et l'odeur des oranges amères. Et l'odeur des oranges amères, et l'odeur des oranges amères.
On y est en voyage là avec toutes ces sensations venues de là-bas. Je vous propose de continuer le voyage juste après les informations. Ce sera avec Martine Galland. Ce ne sera pas tout à fait au même endroit, mais ça reste quand même avec un côté hispanophone puisque nous serons dans une casa particular du côté de Cuba avec un reportage de François Musso. Il me reste à remercier encore Monique Cortési qui est notre assistante de production. On se retrouve demain, on parlera littérature et en délicieuse compagnie puisque ce sera la découverte des auteurs préférés de l'académicien Jean-Marie Rouard.
Et l'odeur des oranges jamais, et l'odeur des oranges jamais. Et l'odeur des oranges jamais, et l'odeur des oranges jamais.
Merci d'être à l'écoute de la première. Il est 15h.